des grands feuilletons de France Culture.
Le crime d'Orcival.
D'après l'œuvre d'Émile Gaborio. Adaptation Henri Weitzman.
Aujourd'hui, 9e épisode, Miss Jenny Fancy.
Résumé du 8e épisode.
Le comte Hector de Trémorel a 26 ans. Modèle achevé du viveur, il a gaspillé sa fortune. Il annonce à sa maîtresse, Miss Jenny Fancy, qu'il va se suicider.
Jenny le supplie de ne rien faire. Elle se dit prête à tout sacrifier du luxe qu'il lui a procuré pour qu'il renonce à son projet.
Mais Hector part en disant qu'il va au contraire mettre ce projet à exécution.
Jenny tombe évanouie.
Trémorel erre dans Paris quand il rencontre son plus ancien ami de collège,
Clément Sauvresy,
qui vient de lire dans une feuille la nouvelle de son suicide.
Sans doute rapportée par Jenny à un journaliste.
Hector confie à son ami qu'il est ruiné.
Sauvresy, riche propriétaire à Orcival, convie Trémorel à venir habiter chez lui au château du Valfeuillu, où il sera accueilli comme un frère par sa femme.
Et il se charge, lui, Sauvresy, de lui faire restituer une partie de ses biens qui sont entre les mains des créanciers.
Le comte Hector est reçu avec grâce par Berthe,
la jeune et ravissante épouse de Sauvresy.
Au Valfeuillu, le lendemain de la venue au château du comte Hector de Trémorel. Dans la serre, transformée en salon, pour le petit déjeuner.
À présent que je deviens ton homme d'affaires, mon cher Hector, tu vas me donner quelques informations indispensables. Quel est, ou quel était, comme tu voudras, le chiffre de ta fortune?
Je l'ignore absolument.
Ça ne m'étonne pas. Mettons X à l'actif et passons au passif. Que dois-tu?
Enfin, je n'en sais rien.
Pas même vaguement.
Oh, si. Par exemple, je dois entre 500 et 600 000 francs à la Maison Claire. À Dervois, 500 000. Pareil somme à peu près au Dubois d'Orléans.
Et ensuite?
Mes souvenirs précis s'arrêtent là.
Tu avais au moins quelque part un carnet sur lequel tu inscrivais le montant de tes emprunts successifs?
Non.
Tu as bien conservé des titres, des états d'inscription, les grosses de tes diverses obligations.
Hier matin, j'ai fait une flambée de toutes ces paperasses.
Mais malheureux, comment m'y prendre pour nettoyer ta position?
Oh, non, ne la nettoie pas, fais comme moi, laisse aux créanciers le soin de se débrouiller.
Jamais. Si on arrive à une vente aux enchères, tu es ruiné.
Baste, un peu plus, un peu moins.
Tes créanciers, eux, connaissent exactement ta situation. Qui sait s'ils ne s'entendent pas? Je vais aller les trouver.
La Maison Claire où j'ai contracté mes premiers emprunts doit être la mieux renseignée.
Soit. Je verrai ces messieurs Claire. Si tu étais raisonnable, tu m'accompagnerais à Paris. Et à nous deux...
Ah non, ça jamais, tu entends? Jamais. De ma vie, je ne remettrai les pieds à Paris.
Bien, bien. Dans un sens, tant mieux. Comme cela, tu resteras avec nous. Et ce n'est pas moi qui m'en plaindrai. Ni moi, ni ma femme. Et un beau jour, nous te trouverons une héritière dans les environs.
Oh, ça...
Maintenant, si je ne veux pas manquer mon train, il faut que je me sauve.
Je t'accompagne jusqu'à la gare.
Si tu veux.
Parce que j'ai un service à te demander et je serais gêné de le faire devant Madame Sauvresy qui précisément vient vers nous.
Je comprends.
Bonjour, mon ami. Bonjour, monsieur.
Madame.
Pardonne-moi, Berthe, mais comme je t'en ai informé ce matin, je pars pour Paris afin d'amorcer le règlement des affaires de notre ami.
Monsieur le comte t'accompagne?
Jusqu'à la gare seulement, madame.
Comme c'est fâcheux. Nous ne nous retrouverons donc qu'à l'heure du dîner. Je dois me rendre à Corbeil où je préside la réunion d'un comité de bienfaisance. Mais je vais donner des instructions pour le repas de midi, qui vous sera servi dans la serre, ici, si cela vous convient.
Vos attentions me touchent infiniment, madame.
J'espère que bientôt vous vous appellerez par vos prénoms. Soyez amis, que diable. Ah, Je n'ai plus de temps à perdre. Tu viens, Hector ? À ce soir, Berthe.
À ce soir.
Sur le quai de la petite gare d'Orcival.
Alors, de quoi s'agit-il ?
Hier, j'ai voulu engager quelques bijoux que j'avais sur moi au Mont-de-Piété de la rue de Condé. Hein ? Il y avait du monde. J'ai attendu assez longtemps, et quand mon tour est venu, le guichetier, après m'avoir dit qu'on m'en proposait 1200 francs, m'a demandé mon nom.
Ouais.
Je n'ai pas osé le prononcer, et j'ai lancé, comme ça, en l'air, Durand. Mais, alors, il m'a réclamé mes papiers. Passeport, ou quittance de loyer, ou permis de chasse. Tout cela, lui ai-je répondu. Eh bien, allez les chercher ou amenez deux témoins patentés. Coincé, j'ai demandé qu'on me rende mes bijoux. Impossible. Tout nantissement enregistré ne peut être rendu que sur justification de possession légitime. Tu imagines dans quel état je suis sorti du Mont-de-Piété.
Pauvre vieux, ne t'inquiète pas. Rue de Condé, dis-tu. Je vais m'en occuper. Tu as autre chose à me demander ?
Oui, c'est plus délicat et d'un tout autre ordre. Une femme.
Ah.
Elle habite près de l'église Saint-Roch, rue de l'Échelle, la maison qui fait l'angle avec la rue Saint-Honoré. Tu demanderas Miss Jenny Fancy.
Jenny Fancy ? Elle est anglaise ?
Penses-tu ? C'est son nom de bataille, elle doit s'appeler Pélagie Tampon, quelque chose comme ça. Bref. C'est elle qui a été ma dernière visite avant que je disparaisse. C'est à elle seule que j'ai dit que j'allais me tuer. Elle me croit donc mort, puisqu'elle a dû aller pleurer son désespoir dans les bras d'un journaliste. Tu peux lui dire que je te dois d'être encore en vie.
Non, 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 je n'ai pas à me faire valoir.
Si, si. Je veux qu'elle sache. Après, ce qui en résultera, on verra bien.
C'est bien. Je passerai chez Miss Jenny Fancy.
au Valfeuillu le soir, dans la salle à manger.
Mais c'est merveilleux, mon ami. Tu as pu tout sauver.
Tout sauver. N'exagérons rien. Notre ami Hector va y laisser quelques plumes, et parmi les plus brillantes. Mais enfin, il restera assez de duvet pour faire un bon nid.
Comment as-tu fait?
C'est bien simple. Du premier coup, j'ai deviné le jeu des créanciers. Ils comptaient obtenir la mise en vente des propriétés qu'ils auraient rachetées en bloc à vil prix pour les revendre au besoin par lotissement, ce qui leur procurait des bénéfices considérables. Mais j'ai dérangé les plans de ces messieurs. Ma chance a été de pouvoir les réunir tous dans l'après-midi.
En si peu de temps? C'est de la magie?
Non, c'est du fiacre. Il suffit de le prendre à la journée, c'est cher, mais ça paye, la preuve. Donc leur ai-je dit, vous allez nous laisser vendre volontairement de gré à gré, sinon je me mets de la partie et je brouille les cartes. Ils me regardaient d'un air un peu goguenard. Mais mon notaire que j'avais amené avec moi a simplement ajouté, si Monsieur Sauvresy veut 2 ou 3 millions dans une heure, le crédit foncier les lui avancera sans l'ombre d'une hésitation. Nos hommes ont ouvert de grands yeux et ont consenti à tout ce que je voulais.
Oh Clément, mon ami, comment m'acquitter jamais?
En ne faisant plus que des folies raisonnables. Tiens, comme moi.
Allons, allons, Clément, tu manques de tenue.
Parce que je t'embrasse devant Hector. Mais c'est pour l'encourager. C'est cela qu'il lui faut, une charmante femme comme toi.
Oh, je suis sûre que Monsieur de Trémorel n'a pas besoin de mentor dans ce domaine.
J'avoue, madame, que l'exemple que vous me donnez tous les deux me fait précisément regretter de n'en avoir pas eu.
Tu vois, Berthe, tu vois que j'ai raison. De toute façon, mon cher Hector, tu n'as plus rien à redouter des plus gros créanciers de la place. De ce côté-là, les poursuites sont arrêtées. Mais ce n'est pas tout. Je suis allé à ton hôtel et j'ai pris soin de congédier les domestiques, à l'exception de ton valet de chambre et du palefrenier. Car si tu veux m'en croire, nous enverrons dès demain les chevaux au Tattersall, où ils se vendront très bien.
Mais mon cheval...
Sois assuré, le cheval que tu as l'habitude de monter sera ici pour ta promenade matinale. Enfin, j'ai donné l'ordre de remplir des malles de tes effets et elles ont été portées au chemin de fer. En arrivant ici, j'ai envoyé un domestique les chercher à la gare. Alors qu'en dis-tu? Monsieur est-il bien servi?
Je ne sais quoi te dire, les mots me manquent. Je suis décontenancé, bouleversé même, tant de sollicitude.
Mon mari est un parfait organisateur. Mais j'entends la voiture. Sans doute les bagages qui arrivent. Excusez-moi, je vais donner des ordres.
Vite, pendant que nous sommes seuls. Tiens, voici tes bijoux. Ramasse vite. Ça n'a pas été sans mal. C'est qu'ils sont méfiants, les gens du monde piété. Il faut reconnaître qu'ils ont un peu raison. Ils ont commencé par me prendre pour l'associé d'une bande de filous.
Tu es extraordinaire. J'espère quand même que tu n'as pas eu à révéler mon identité.
Cela a été inutile. Mon notaire était toujours avec moi. On ne saura jamais assez ce qu'un notaire peut être utile en certains cas. Bon, maintenant, pour en terminer, j'ai rendu visite à Miss Jenny Fancy.
Ah.
Elle était au lit depuis la veille. Sa femme de chambre, qui a l'air d'être sa nourrice, l'y a portée après ton départ, car elle l'a trouvée gisant évanouie sur le parquet. Depuis, elle ne cessait de sangloter.
Je n'en reviens pas à ce point.
Quand je lui ai appris que tu étais vivant, bien vivant, que tu étais chez moi, j'ai cru qu'elle allait devenir folle de joie. Sais-tu qu'elle est vraiment jolie?
Oui, elle n'est pas mal.
Puis, je la crois bonne fille. Elle a eu des mots extrêmement touchants à ton sujet. Je parierais presque, mon cher ami, qu'elle ne tient pas seulement à ton argent, qu'elle a pour toi une sincère affection.
Possible.
Bref, elle voulait à toute force me suivre. Partir avec moi, pour te voir, te parler. J'ai dû lui jurer qu'elle te rencontrerait demain, non à Paris, puisque tu ne veux plus y retourner, mais à Corbeil.
Ah, bon. Bon, à Corbeil, je veux bien.
Donc, demain, à midi, elle sera à la gare de Corbeil. Nous partirons ensemble d'ici. Tandis que je prendrai le train de Paris, tu monteras dans celui de Corbeil. Arrange un prétexte pour ne pas déjeuner au Valfeuillu. Et tu pourras inviter Miss Jenny à l'hôtel de la Belle Image.
Il n'y a pas d'inconvénient?
Pas le moindre. On peut même d'ici s'y rendre sans être vu de personne, en suivant le bord de l'eau et en prenant la rue qui contourne le moulin d'Arblé. Berthe revient. Plus un mot.
Voilà, tout est en ordre. Je fais monter les malles dans votre appartement.
l'appartement de Jenny à Paris quelques semaines plus tard.
Monsieur Sauvrésy, tu sais, cet aimable monsieur qui est venu l'autre jour, il ne m'a pas menti.
Hector m'aime toujours.
J'attendais à la gare de Corbeil, comme convenu, toute tremblante, quand tout à coup, je l'ai aperçu, debout près de la porte de sortie. Je me suis jetée à son cou, pleurant et riant à la fois.
Jolie façon de ne pas se faire remarquer.
Bah, tant pis.
Et qu'est-ce qu'il t'a raconté ?
C'est un miracle qu'il ne soit pas mort. Ayant dépassé la barrière, il marchait le long de la Seine à la recherche d'un endroit tout à fait isolé pour mettre son projet à exécution. Quand il a été attaqué par deux malandrins, qu'il a mis en fuite après les avoir copieusement rossés.
Il t'a dit cela ?
Oui. Ça ne m'étonne pas. Tu connais sa force. Il vaut mieux ne pas se frotter à lui. Seulement, après cela, il s'est éloigné de cet endroit et il remontait vers le pont de Sèvres quand il a croisé M. Sauvrésy qui conduisait lui-même sa Victoria. C'est M. Sauvrésy qui l'a aperçu. Il a sauté de la voiture et l'a vite rejoint. Alors, à partir de ce moment, tout a changé. Tu comprends ? De vieux amis d'enfance, de collège. Monsieur Sauvrésy était très riche propriétaire des environs de Corbeil, qui a convaincu Hector de renoncer à son projet et il l'a emmené chez lui dans son château de Valfeuillu à Orcival, près d'Evry.
Un château ?
Oui, ma chère. C'est un homme vraiment bien, cet ami d'Hector. Il a pris ses affaires en main et va lui faire regagner une partie de sa fortune. Mais bien entendu, ça ne peut pas se réaliser du jour au lendemain. Il faut du temps. Et comme Hector ne veut plus remettre les pieds à Paris, c'est compréhensible. Nous nous rencontrerons chaque semaine à la Belle Image, le petit hôtel de Corbeil où nous venons de nous retrouver.
Tout cela, c'est très beau. Mais il ne va plus pouvoir assurer le train de vie que tu menais.
Mais il n'en est pas question. Mais pas question du tout, ma bonne Céline. Mais tu sais bien que j'ai déjà liquidé voiture, cheval, et que j'ai donné congé au domestique dès le lendemain de son départ. Pour toi, ce n'est pas pareil. Tu as voulu rester avec moi alors que tu aspires à te retirer chez ta sœur dans ton Limousin natal. Maintenant, mais tu vas pouvoir réaliser ton rêve. Je vais donner congé de cet appartement et vendre tout le mobilier.
Pourquoi faire ? Tu ne penses tout de même pas que vous pourrez vivre tous les deux avec les 4 sous que tu vas retirer de tout cela?
Tu n'as donc pas compris? En attendant qu'Hector ait récupéré une partie de ses biens, je vais acheter un fonds de modiste et m'associer avec une ancienne amie qui, elle, apportera son savoir-faire. Et nous gagnerons beaucoup d'argent.
Et tu en as parlé au comte Hector?
Évidemment. Il a bien ri. Mais il ne m'a pas découragée, au contraire. Il m'a d'ailleurs confié que le séjour au Valfeuillu commençait à lui peser un peu, qu'il avait trop d'obligations envers son ami et qu'il ne respirera librement que lorsqu'il aura recouvré sa liberté. Je lui ai dit que j'étais bien contente de l'entendre parler ainsi, car j'avais appris que Madame Sauvrésy, l'épouse de ce charmant monsieur, était d'une beauté extraordinaire et que cela avait de quoi m'inquiéter. Il a paru étonné, autant qu'amusé. Parce que, m'a-t-il répondu, jusqu'à présent, il avait oublié de la regarder en la voyant.
Eh bien, je suis heureuse pour toi, ma petite Jenny. Et pour moi aussi, qui vais pouvoir faire mes paquets. N'empêche que j'ai le cœur gros à la pensée de te quitter.
Moi aussi. Et sois sûre que je ne t'oublierai jamais.
Tu as été une mère pour moi.
Mon enfant.
Au Val Feuillu.
Si tu veux bien, mon cher Hector, nous allons faire le point. Jusqu'à présent, j'ai pu parer au plus pressé. Mais tout est loin d'être terminé. Quand la barque sombre, il faut d'abord jeter à la mer tout le superflu. Le passé est mort, enterrons-le. Ta situation, une fois liquidée, nous aviserons.
Mais tu m'avais dit que les plus gros créanciers...
C'est la ribambelle des petits qui mettent des bâtons dans les roues. Ils en viennent partout, même d'Angleterre. Des nommés Quaif, Lowfield et d'autres.
Mais pourtant, je suis sûr de les avoir remboursés, ceux-là.
Peut-être, mais comme tu as brûlé tous les papiers, gros malin, où sont tes reçus? Quelques-uns ont des prétentions exorbitantes. Ils menacent même d'entamer des poursuites. Il faut que je fasse barrage à tout cela. Je retourne à Paris et ils verront de quel bois je me chauffe.
Oh, pardon, je ne vous savais pas dans la bibliothèque, je vous laisse un livre.
Mais tu ne nous déranges pas, ma chère petite Berthe. Au contraire. Je dois partir immédiatement pour Paris car nous sommes en pleine bataille de liquidation. Bataille que je gagnerai. Je confie Hector à tes soins. Je vais déjeuner chez mon notaire.
Je suis navré que tu te donnes tant de mal à cause de moi.
Navré? Pourquoi? Si tu savais comme je suis heureux. N'est-ce pas, Berthe?
Oui, mon ami.
Alors, à ce soir.
À ce soir.
Et voilà l'homme qui se dit heureux.
Mais, sans doute, l'est-il. Et vous?
Moi? Non. Je ne suis pas heureuse.
Cependant, il vous comble.
Oui, comme il vous sauve.
Que voulez-vous dire?
Que Clément Sauvresy est un bon intendant. Il fait son propre bonheur en régissant le vôtre et le mien. Il me comble, il vous sauve. En êtes-vous vraiment heureux?
Je dois avouer que mon amour-propre est parfois à l'épreuve. Clément est certainement en affaire un homme supérieur.
Qui a le tort de trop faire sentir cette supériorité-là? Il met toujours un peu d'orgueil, une certaine ostentation à se bien conduire avec autrui.
Je n'aurais pas osé le dire. Je lui suis tellement redevable que j'en éprouve un peu de honte. Sa générosité finit par me gêner.
Comme ne cesse de m'importuner sa perpétuelle adoration. Il ne faut pas croire qu'une femme se satisfait de la complaisance inaltérable d'un homme soumis d'avance à toutes ses fantaisies, à tous ses caprices. Oh, je ne lui reproche rien. Je ferai preuve d'ingratitude. Je ne lui reproche donc pas d'être ce qu'il est, mais seulement de n'avoir rien été. De n'avoir pas eu de jeunesse, sinon orageuse. Du moins troublé. Non. Sauvresy, mon mari, est un homme raisonnable, serein et tout à fait content de lui. Vous avez pu le constater. Il répète à satiété : je suis heureux.
Eh bien, vous voyez, si ni vous ni moi ne le sommes, lui, du moins. Oh, Berthe. Mmh.
Que va-t-il se passer entre Berthe et Hector? Et qu'allons-nous apprendre encore?
C'était d'après l'œuvre d'Émile Gaborio, adaptation Henri Weitzman,
le 9e épisode du crime d'Orcival.
Avec Marie-Hélène Breya, Yves Fabrice, François Martouret, Hélène Sielka, Emmanuel Weiss.
Bruitage Dominique Aubert, chef opérateur du son Guy Senot. Collaboration technique, Edwige Philipponat. Assistant de production, Didier Lagarde. Réalisation, Jeanne Rollin-Weiss.
Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 22 août 1984. Vous pourrez le réécouter en ligne ou le télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Demain à la même heure, Liaison dangereuse.